Oui, notre Dieu, nous voici à ce rendez-vous divin. Nous avons besoin maintenant de toi, de ton assistance. Nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton Esprit Saint. Conduis nos pas. Merci pour la grâce de la vie et merci pour ce temps que tu nous donnes de nous tourner autour de ta parole. Tu sais que la vie vient de ta parole, Seigneur, et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Prends-nous en charge, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Utilise ton Fils qui a la charge de nous conduire. Nous qui sommes là et tous ceux qui vont s'ajouter, nous avons réellement besoin que tu ouvres notre entendement pour bien capter ta volonté dans ta parole. Et toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Bien-aimés, nous sommes arrivés au 38e chapitre de Genèse. Genèse, chapitre 38. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 11e. Premier verset jusqu'au 11e. Il y avait une sœur là-bas, nous aurions souhaité lui donner la parole. Une provocation. Ok, tu as la parole, ma sœur.
38.
Oui, 38, les 11 premiers versets.
Judas et Tamar. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et il la prit pour femme. Et alla vers elle, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onam, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se sciait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, ta belle-fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. La parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, notre sœur. Bien-aimée, cette histoire que nous venons de lire interrompt un peu le cycle de Joseph. Nous avons commencé avec Joseph au début du chapitre 37. Joseph, un enfant rêveur, il avait un avenir. Il n'était pas aimée par ses frères, qui ont fini par le vendre. Ils voulaient d'ailleurs le tuer. Alors, on aurait pu continuer avec la suite, puisque il est arrivé au verset 36 du chapitre 37, il est arrivé en Égypte. On aurait pu continuer avec l'histoire de Joseph. Mais il y a une interruption. C'est Judas qui entre un peu en musique. Judas qui a aussi un des fils de Jacob. Nous savons Ruben est le premier-né. Il a eu des problèmes parce qu'il a été avec la femme de son père. La deuxième femme, bien sûr. Deuxième, cette histoire de Jacob, ça complique un peu, mais c'était une femme de second rang. C'est la servante de Rachel. Alors, lui, il est, on peut dire, disqualifié parce que il ne sera plus considéré comme le premier-né. Les deux autres enfants qui suivent la hiérarchie, il s'agit de Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, ils ont aussi mal agi parce qu'ils ont massacré tout un peuple. Et cet acte-là n'a pas plu à leur père. Alors, celui qui suit là-bas, c'est bien Judas. Selon l'ordre que nous avons, la naissance des enfants, il y a d'abord Ruben, ensuite Siméon et Lévi. Le quatrième enfant, c'est Judas, dont il est question ici. Judas, il prend la place maintenant parce que cette tribu-là, nous savons, ce sera la tribu du roi David. Et David est dans l'histoire du peuple de Dieu. David est important puisque notre sauveur en tant qu'humain naîtra de cette lignée. Donc, nous touchons un peu Judas avant de continuer avec Samuel, Jacob. Avec Joseph. Je sais que nous voulons l'histoire de Joseph, mais on arrête un peu. Les 11 premiers versets nous montrent la famille de Judas, cette famille qu'il a trouvé dans le pays de Canaan. Alors, nous allons maintenant voir pas à pas, verset par verset, ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Qui veut commencer? Bon, selon le texte, au verset 1er du chapitre 38, on nous dit que à cette époque, c'est un peu vague. Peut-être à l'époque où Joseph était vendu, bien sûr,
oui.
Il y a eu deuil à la maison, plaire amèrement son fils parce que il n'est pas là. Donc, il y a ici deux situations qui n'arrangent pas la famille de Jacob. Le deuil prolongé de Jacob, le deuil de son fils, et la disparition de ce fils-là, Joseph. Donc, cette période-là, à cette époque, Judas quitta ses frères et se rendit à Adullam chez un nommé Hira. Donc, il quitte un peu la famille. Il va ailleurs, dans une autre famille. On peut dire aussi, dans un autre peuple. Il va là-bas, il quitte ses frères et lui sort. Bon, nous ne savons pas pourquoi. On a essayé de voir, comme je disais tout à l'heure, il y a le deuil, il y a la disparition. Peut-être le climat n'est pas bon. Et quand on regarde un peu sa proposition, c'est lui qui a proposé la vente de son frère. Peut-être que a-t-il quelques remords dans son cœur, parce que c'est lui qui a proposé la vente. Bon, il ne doit pas être tranquille. Il ne doit pas être tranquille. Alors il faut sortir un peu, qu'il ait un peu d'air. Qu'il ait un peu d'air, parce que, en tout cas, ce qu'on a fait là, même si chacun a mangé son argent, mais il y a toujours des remords, parce qu'il y a la vente d'un frère. Sors un peu, peut-être pour respirer. Est-ce que cette situation va s'arranger? Voilà, bien-aimés, ce sont des questions, mais la parole nous dit qu'il sort à ce moment-là. Voilà. Merci.
Oui, je peux prendre le deuxième verset.
Oui.
Là où il est parti, Judas, d'abord, je voulais parler en fait de la naissance de ce quatrième enfant, Judas. Rappelons-nous, quand Léa a mis au monde cet enfant, il lui a effectivement donné le nom de Judas. Ce qui signifie, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, je louerai le Seigneur. C'est un enfant de louange, en fait, au Seigneur. Donc, louange au Seigneur, c'est ça ce que signifie Judas. Son comportement ne montre pas cette louange dans le sens qu'il va aller là où il ne devait pas aller, dans le sens qu'il va faire une alliance avec un peuple, les Cananéens, dont que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, son grand-père, tous ont interdit à leurs enfants de ne pas épouser cette tribu païenne. Voilà, Judas va faire en fait la différence. Il va apercevoir la fille de Choua, un Cananéen. Il en fit sa femme de cette union. Et je me dis, ça, c'est vraiment une désobéissance, et ça va être une désobéissance qui ne va pas en rester sans conséquence. Nous allons voir cela bien après. Donc ça, c'est déjà un exemple à ne pas suivre dans ce deuxième verset, de quitter son peuple pour aller faire alliance avec un peuple étranger qui a leur Dieu, qui a leur manière de vivre, qui a leur manière de faire. Ça, c'est déjà vraiment un exemple à ne pas suivre que Judas nous montre. Amen.
Amen. Un exemple disciple à ne pas suivre, lui qui porte un nom important. Quand on regarde un peu les noms que Léa a donné à ses enfants, surtout les quatre premiers là, c'est toujours autour de mariage. Mais celui-ci, il a un nom, louange à Dieu. Un beau et bon nom. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur sera issu de cette tribu. Parce que ça a un nom important. Mais il y a un mais. Il a fait des alliances avec un autre peuple. Le peuple que Dieu n'a pas permis qu'il y ait de relations de mariage. Merci. Il est donc un mauvais exemple à ne pas suivre.
Oui, papa.
Oui.
Oui, papa, je voulais ajouter quelque chose au verset 1. Vous avez dit tout à l'heure, disons, à ce temps-là, je suis en train de voir un peu l'époque, disons, le temps où il décide d'aller loin. Ce n'est pas un temps favorable. Et pourquoi, même si le texte ne le dit pas, mais si nous voyons la motivation, c'est que le climat n'était plus bon. Le papa portait le deuil et la vie n'était plus bon à la maison parce qu'il y avait la conscience aussi qui était chargée.
Tout à fait.
Donc, je dis que quand on se sépare en bon terme, c'est mieux, mais se séparer parce qu'il y a eu des problèmes, c'est souvent, c'est pas bien. Ce qui fait que il va faire le choix d'une femme parmi, comme disait Pasteur Célé tout à l'heure, là où on les avait interdits de ne pas avoir de femmes. Donc déjà, quand le cœur est chargé, c'est plein de péchés, le cœur est lourd. Et il y a ce qui vous pousse à vous déplacer, qui n'était pas bon, l'attitude, ils ont mal. C'est lui qui a proposé qu'on vende son frère. C'est vrai que derrière ça, ça accomplissait les plans du Seigneur. Mais la conscience était toujours chargée. Il pouvait plus rester tranquille. Donc, quand on se déplace avec tout ce poids, la conscience chargée, et souvent le départ est un mauvais départ, et même la continuité ne sera pas bonne. Amen.
On peut se séparer. On peut être joyeux là où on est parti, mais ce sera une joie de courte durée parce qu'il y a un problème. Merci beaucoup, maman Christine.
Il y a la sœur Rose qui demande la parole, s'il te plaît.
Oui, maman Rose.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je vois d'une autre façon, hein, un peu, je suis en train de réfléchir sur le verset 1. Il s'éloigna de ses frères. S'éloigner de ses frères, autrement dit, il s'est éloigné de Dieu. C'est à un moment-là qu'il est allé qu'il a vu une fille cananéenne que Dieu avait interdit. C'est un mauvais exemple. Ce n'est pas bien de s'éloigner des siens, de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas bon. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, il y a beaucoup de choses. C'est la mort, quoi. C'est la mort. Tu vas faire un mauvais choix. Tu vas faire un mauvais choix. Donc, c'est la mort qui vient. Abandonner Dieu, vraiment, ce n'est pas bon. Si tu abandonnes Dieu, c'est la mort qui vient. Alors, c'est ce que je voulais ajouter un peu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Oui, c'est-à-dire que toi, tu lis les frères ou la famille à Dieu. Il n'y a pas de mauvais. Il s'est éloigné, il quitta sa famille et il va ailleurs. Et là, ailleurs, là-bas, c'est là où Dieu a dit qu'il n'y ait pas de relation. On voit bien que lui, il n'a pas bien fait de quitter sa famille. Merci. Oui. Ok. Une autre personne?
Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas de main. Papa, tu peux continuer.
Oui, merci. Quand il est parti là, il a trouvé une femme avec elle. Ils ont fait 3 enfants, tous garçons. C'est au verset 3. Oui, elle devint enceinte et mit au monde un fils que Judas appela Er. Judas appela ce fils Er. Je ne connais pas la signification de ce nom. Alors, verset 4, se suit avec les naissances, la naissance de Onan et celle de Shéla. Nous pouvons dire que vraiment, c'est une bonne chose que d'avoir des enfants quand on se marie. Ici, ce sont des fils, que des fils. Il a suivi son papa qui avait 12 fils et une seule fille. Et lui, il a 3 fils. Donc, c'est bien. Donc, à voir là-bas, il n'y a rien de mauvais. Le Seigneur qui donne, a donné à cet homme 3 enfants, 3 fils. Voilà. Donc, nous disons que le Seigneur, il est bon. Même quand on ne suit pas sa volonté, mais il donne quand même quelques avantages à des personnes qui ne suivent pas aussi sa volonté. Nous avons vu avec Ésaü, il était aussi un homme qui avait de moyens. Il en avait, Dieu a donné. Même si le Seigneur n'est pas là, mais quand même pour cette vie, Dieu s'occupe de cette vie aussi. Mais l'essentiel est d'avoir Dieu dans sa vie ici-bas. Merci.
Ok, merci papa. Il y a Monsieur Christine Londres qui a demandé la parole.
Oui, maman Christine.
Oui, merci bien-aimé. Je suis au verset 6, si vous permettez, papa. Alors, j'aimerais juste savoir si Tamar, la femme que Judas a prise pour son fils, c'était une païenne aussi ou bien elle était de la descendance d'Abraham. Parce qu'on n'a pas éclairci ça ici.
Bon, je vois sur le nom de Tamar, on met une note là-bas et on nous renvoie dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er. Verset 3, Alors, jusqu'ici, nous pouvons dire que nous sommes encore là-bas, en Cana, parce que le garçon qui est devenu un monsieur, il a quitté ses frères qui étaient là. Et il est allé dans une famille cananéenne. Alors, cette femme ne peut être qu'une cananéenne aussi. Ouais. Ne peut être que ça. Donc, nous disons que ce n'est pas de la famille d'Abraham. Oui. Maman Christine? Bon, tout le monde est en mute. Hein?
Oui, tout le monde est en mute parce que j'essayais d'éviter les bruits de fond. Il faut qu'on vérifie chacun chez soi s'il y a le bruit de nettoyage des assiettes, et un peu cela. Ça passe dans la réunion et ça risque de déranger la réunion. C'est pour cela que j'ai essayé de mettre tout le monde en mute pour voir un peu, pour localiser ces bruits-là. Oui, papa, je peux aussi ajouter à la question de notre sœur Christine.
Que oui.
Notre scène ici se déroule pas dans une famille de la descendance d'Abraham ou de Jacob. Ça se déroule en dehors. Donc, c'est en dehors que tout ceci est en train de se passer. Mais comme tu as parlé de la référence qui est donnée, elle est importante dans notre étude parce que Tamar, ici, qui est prise comme femme du fils de Judas, elle va être citée parmi la généalogie de Jésus.
C'est ça.
Pour voir vraiment comment Dieu travaille avec la grâce, nous allons voir plus loin, et ça sera peut-être le texte que nous méditerons demain, il n'aura pas, excusez-moi de précipiter un peu les choses, il n'aura pas cette Tamar n'aura pas des enfants avec les enfants de Judas, mais elle aura des enfants avec Judas lui-même. Ces deux enfants qui sont en fait, on dirait les enfants nés en dehors du mariage, vont être parmi les ancêtres de Jésus. Comment est-ce que Dieu travaille? Des fois, Dieu travaille avec des situations compliquées pour nous.
Et, tout à fait.
Voilà. Donc, pour répondre à notre soeur Christine. Donc, c'est une païenne.
C'est une païenne.
Tamar. Maintenant, c'est la sœur Claudine qui demande la parole, s'il te plaît.
Oui, oui. Merci.
Merci, papa. Moi, je vais prendre le verset 7 et le verset 8. C'est complète. La Bible dit, « Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. » Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Oui, nous voyons ici que le premier-né de Juda était méchant et Dieu le fit mourir. La Bible ne nous explicite pas sur la méchanceté des Er, mais ce qui est vrai, qu'il était méchant. Et nous voyons que c'est avec les déluges, si Dieu avait détruit le monde de ces temps, c'est parce que les humains étaient devenus méchants aux yeux de l'Éternel. Et ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Nous devons faire de tous nos efforts pour ne pas user de la méchanceté en envers qui que ce soit ou en quoi que ce soit, parce que Dieu déteste la méchanceté. Mmh. Et quand Juda voit que son fils premier-né est mort, il demanda à son deuxième fils d'aller vers la femme de son frère. Et c'était une loi qui était à l'époque, les lois du Lévira. Mais nous voyons par la suite que ses frères et les deuxièmes enfants étaient égoïstes. Il n'a pas voulu. Moi, quand j'ai médité ce passage la journée, j'ai compris que c'est vrai qu'il y avait cette loi-là du Lévira, mais il y avait aussi la volonté du jeune homme. Alors avec ça, je me suis dit, même qu'il y a des lois, même qu'il y a des instructions, nous devons aussi savoir parler avec nos enfants. Nous devons aussi savoir conseiller nos enfants, surtout en ce qui concerne la vie du couple. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple. Et si nous, parents, nous ne éduquons pas nos enfants, nous ne les conseillons pas, bien aimé, il y aura toujours de méchanceté, il y aura toujours des égoïstes. Or, ces choses-là bloquent la bénédiction de Dieu sur le couple, bloquent la bénédiction de Dieu sur la famille. Ainsi, vraiment, nous voyons que c'est pas un exemple à suivre. Être méchant, être égoïste, c'est contraire à la loi de Dieu. Amen.
Mm-hmm. Oui, au verset 7, il y a cette mort dont la cause est inconnue, mais comme la Bible le dit, elle déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. C'est que vraiment, il était méchant. Il était méchant, le Seigneur n'a pas pu continuer à patienter. Il a mis à mort. Donc, la méchanceté, comme a souligné notre Seigneur, c'est une mauvaise chose et nous devons vraiment éviter d'être méchants. La méchanceté, il y a plusieurs façons de voir la méchanceté, mais en un mot, cela n'est pas bon pour les enfants de Dieu d'être méchants. Le huitième verset, il est clairement dit que papa Juda a dit à son fils de pratiquer cette façon de mariage, c'est-à-dire un frère est mort sans laisser des enfants. Le frère qui suit peut la prendre pour qu'elle devienne sa femme. Afin, ce qu'on cherche, qu'il y ait naissance, pour ne pas oublier la présence de celui qui est parti, il faut un enfant, comme ça, il sera toujours là par son enfant et on lui donnera aussi l'héritage, ainsi de suite. Souvenons-nous de sept frères du Nouveau Testament, l'exemple est donné par il y avait un groupe là qui était venu voir le Seigneur parce que ce groupe niaient la résurrection des morts et ils ont présenté, ce monsieur ont présenté cette famille qui avait sept frères. L'un est mort, l'autre mort, ainsi de suite, jusqu'au septième, sans enfant. Et à la résurrection, elle sera la femme de qui? Voilà, nous nous souvenons de cela, oui. Voilà, ici, il y avait la pratique. Et en Afrique, chez nous, dans les temps aussi, il y avait également cela. là où je suis né, dans le temps, il y en avait. Mais ça, on ne le suivait pas tellement. Chaque fois, l'individu veut sa propre femme. Il y en a qui refusent. Ou bien la femme refuse. Il dit non, j'étais avec son grand frère, je ne veux pas être avec son petit frère. Je connais l'histoire, nous l'avons vécu chez nous, dans notre clan. Ouais. Mais c'est vrai ce qui est ici. Ok.
Oui, papa. Je voudrais dire quelque chose rapidement avant de donner la parole aux deux qui demandent la parole. Effectivement, donc, je rentre d'abord au verset 3 et au verset 4. Nous avons vu, depuis que Jacob a commencé à mettre au monde, chaque enfant, quand on donnait le nom à chaque enfant, les noms avaient des significations. Et Judas va quitter sa famille, va aller chez les Cananéens. Son premier fils, Er, on ne donne pas de signification. Le deuxième fils, on ne donne pas de signification. Le troisième fils n'était même pas présent. Il était parti encore du côté de Kézib. Donne Shéla sans signification. Ceci nous montre quand on s'éloigne un peu de sa famille, on s'éloigne de ses coutumes, comment on va nécessairement épouser les coutumes des autres. Et ce qui fait qu'on a maintenant des noms sans signification, comme nous avons vécu avec les enfants de Jacob. Et ça, c'est la conséquence de s'éloigner des siens. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vais revenir sur cette loi.
Oui.
Après.
Oui, si on s'éloigne des siens, on perd aussi les habitudes. Parfois, les habitudes sont... Ces habitudes-là sont bonnes, mais on doit épouser donc les habitudes de l'autre côté. Ici, on garde l'anonymat. On a un nom, R, c'est R. Mais R, c'est quoi? Pas de signification. Merci, pasteur. Oui. Au revoir, Christine. Oui.
Non. Avant d'aller, j'aimerais que chacun examine là où on est, si on fait des bruits de casserole ou des assiettes derrière. C'est en train de passer dans l'enregistrement, si on peut peut-être s'éloigner de là où on est, quoi. Bon, on commence avec Christine de Canada, et puis on va venir avec Christine de Londres.
Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 9. Le verset 9, c'est au fait, on a un très mauvais exemple. Disons, l'exemple n'est pas à suivre. Parce que quand le papa Judas l'a proposé, il a accepté. Mais dans sa tête, il dit non, mais même si je veux vers cette femme, la possibilité ne sera pas la mienne, ça sera pour mon frère. Autant. Et n'est pas, j'étais la semence par terre, ce qui dit la Bible. Ça, c'est ce n'est pas un exemple. L'exemple n'est pas à suivre parce qu'il faut être clair. Pourquoi? Même Dieu n'est pas d'accord. Dieu est dans nos ententes, quoi. Quand nous parlons, même dans nos chambres, Dieu est là. Dieu voyait tout ce qu'il faisait et il n'a pas aimé, il a puni de mort. Donc, pour dire que quand nous disons oui, nous devons accomplir ce que nous avons dit oui. Or, ne pas dire oui et en réalité, nous faisons autre chose. Amen.
Amen. Oui. Le garçon au nom, il avait accepté de prendre la veuve et s'en laisser par son frère. Mais il connaît aussi le coutume. Papa a rappelé Judas au verset 8. Mais lui, il voit lui-même. Il voit lui-même. Son frère, il est mort, il est mort. Moi, c'est moi. Alors, voilà, il tombe dans des pratiques que le Seigneur ne veut pas. Il tombe dans des mauvaises pratiques. Oui. Et la sœur a souligné le fait d'accepter. Il faut le faire, il faut accepter sincèrement. Parce que nous avons quelqu'un qui voit dans les secrets. Quand le Seigneur Jésus, il avait souvent utilisé le mot « le secret » situé au sixième chapitre de Matthieu. En parlant de la prière, il dit « votre Père qui est dans le secret ou qui voit le secret, c'est que dans le cœur, il vous récompense. » En parlant des aumônes, la même chose. Donc, celui qui voit dans le secret, c'est Dieu. Et il faut que nous nous souvenions toujours de lui. Ça nous arrive de l'oublier pour un moment. On voit qu'on est seul, vraiment seul, parce qu'il n'y a personne dans la chambre. Oui, mais il est là. Il est là. Merci beaucoup, maman, pour nous rappeler la présence permanente de notre Dieu, l'omniprésence. Merci. Oui.
L'autre Christine.
Oui, merci pour la parole. Là, je vais intervenir au verset 11, où je vois maintenant Papa Judas qui prend maintenant la décision, qui se... Disons, Papa Judas connaissait très bien cette loi. Il a essayé avec les deux fils, les deux fils sont morts. Et le papa, je crois qu'il est touché là où il est. Et sûrement, il est en train de se poser la question pourquoi ses enfants sont morts. Et nous avons vu ici que c'est suite à leur désobéissance. Le premier, on a dit qu'il était méchant, on n'a pas dit en quoi il était méchant. Mais le deuxième, on nous a montré clairement que c'était quelqu'un qui avait dit oui, et après il a fait autre chose. Et ça a déplu au Seigneur, parce qu'il n'aime pas qu'on ait double visage. Et il a tué, il a fait mourir plutôt. Et le troisième enfant, le papa sûrement qui commençait à s'inquiéter, à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, il a anticipé pour voir que, sûrement que celui-ci aussi, le troisième, s'il prend cette femme, il va mourir aussi. Et il a camouflé cela, il a demandé à la femme de rentrer dans sa famille et de rester garder le veuvage. Moi, je trouve ici que bien-aimé, quand on a, comme on a, les bien-aimés l'ont dit là, qu'il était sorti de sa famille, il s'est éloigné de la famille. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit qu'il y a des loups dévorants qui tournent tout autour de nous. Nous devons faire attention. Ce Judas est sorti de sa famille, il est parti. Et là où il est parti, il a commencé à faire des pratiques qui n'étaient pas dans sa coutume, qui étaient des pratiques, disons, païennes. Alors, c'est pourquoi il a continué. Et maintenant, il a réalisé que le fait d'être sorti de sa famille, d'aller épouser les femmes à l'extérieur, a amené tous ses malheurs. Et les enfants qui devraient faire sa joie sont en train de faire son malheur. Il est en train de souffrir dans son cœur. Alors, par mesure de prudence, il renvoie la fille dans sa famille. Mais malheureusement, ils continuent toujours à garder leur loi, disant qu'elle reste veuve jusqu'à ce que l'autre enfant grandisse. Mais dans l'entretemps, dans son cœur, il n'avait pas l'intention de donner cette femme encore à son fils. Donc, c'est encore de l'hypocrisie ici, ce que le Seigneur n'aime pas aussi. Donc, nous devons vraiment être sincères quand nous devons prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais soyons quand même sincères, bien-aimés. C'est ce que je retiens ici. Donc, il faut être sincère parce que Dieu regarde notre cœur. Merci.
Il faut être sincère car Dieu regarde notre cœur. La pratique de hériter la femme était répandue à ce moment-là, même en Israël plus tard. Il y aura ça aussi.
il aura ça aussi, de prendre la femme laissée par son frère. Et même la sœur peut aussi hériter. Quand la sœur est partie, elle n'a pas eu des enfants, on peut prendre aussi. Et il fait ces pratiques-là. Parce que ce qui importait pour les anciens, c'est d'avoir des enfants. Et aussi, en même temps, de garder le souvenir de ceux qui sont partis. Qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas. Donc, qu'on est toujours ensemble, même si c'est disparu. C'est toujours dans ce sens-là. OK.
Oui, papa, nous avons trois mains, comme tu le constates là. D'abord, le pasteur Samuel, ensuite, la sœur Claudine, et enfin, papa Célestin.
Nous pouvons suivre cet ordre-là et nous souvenir aussi du temps, ce qui fait que nos bien-aimés soient, donc, bref, de dire l'essentiel. Merci que le premier cité prenne la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais rappeler l'attitude d'Onan, là, pour voir que la pratique est condamnée. Dieu le condamne parce que la semence est faite pour donner la progéniture. Mais lui le fait pour un but qui n'est pas un but qui n'est pas bon. Donc ça participe de masturbation et de condamne, et que parfois aujourd'hui les gens pratiquent encore, même dans les familles, dans des couples. Ils ne veulent pas mettre au monde, ils procèdent autrement pour ne pas avoir des enfants. Alors, on voit ici que c'est condamné par Dieu. Donc, ce sont des attitudes qui plaisent à Dieu. Dans le cas de Judas avec sa belle-fille, on voit ici la ruse. Dieu condamne aussi la ruse. Dieu veut que notre oui soit oui et notre non soit non.
Amen.
Ici, il trompe sa belle-fille parce qu'il veut préserver son enfant. Mais on verra, on va voir dans les versets qui suivent que le trompeur
est trompé.
Aussi trompé. L'homme rusé va rencontrer la ruse de la part de sa belle-fille. Voilà un peu ce que vous pouvez dire ici.
Merci beaucoup, pasteur. Oui, la suivante.
Papa,
c'est maman Christine. Maman. Ah oui, moi, Claudine.
Je sais que je voulais dire, le pasteur Samuel vient de le dire par rapport à Onan. Voilà, je crois que c'est déjà dit.
Merci. Le Saint-Esprit travaille, oui. Alors, la dernière à prendre la parole.
Oui, c'est le dernier.
Ah, le dernier, c'est le garçon.
Oui.
Oui.
Moi, je suis en train de voir un exemple à suivre dans ce texte de Judas. Judas est en dehors de sa famille, mais il n'a pas oublié la loi de sa famille. Il va faire appliquer cette loi en dehors de la famille. Même quand il est en dehors de la famille, il peut penser que Dieu ne le voit pas, mais Dieu est aussi là où il est parti. Et ça, c'est tellement instructif que nous devons apprendre à nos enfants, même si les enfants quittent la maison, il faudrait que les enfants continuent à appliquer ce qu'ils ont appris dans la maison. Et même là où ils vont partir, il faut toujours leur rappeler, même si vous n'êtes pas dans la maison, sachez que vous êtes avec Dieu là où vous êtes.
Amen.
Dieu est en train d'intervenir dans la famille de Judas, même s'il a, il a épousé une païenne, et même ses enfants ont épousé des païennes, mais Dieu est toujours là. On voit que le Seigneur est en train d'agir dans la vie des enfants de Judas, mais pourtant il n'est pas dans la famille d'Israël. Il est en dehors de la famille d'Israël.
Mmh.
Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des parents, mais il est aussi le Dieu des enfants.
Mmh. Tout à fait.
Amen.
Amen.
Amen. Oui, oui. C'était un aspect important que tu as soulevé là. De voir la, on peut dire la présence partout du Seigneur, l'omniprésence de Dieu, nous pouvons être loin de là où nous sommes appelés à être, là où nous avons l'habitude de nous réunir, de prier, de faire notre culte familial. Mais quand nous sortons, nous allons ailleurs, il faut que nous gardions ces habitudes-là. Même si nous ne pouvons pas avoir le nécessaire qui nous permette de continuer notre façon de vivre sur le plan spirituel, mais faisons quand même un effort d'avoir le moment. Le moment. Je vais être concret. Quand on est habitué à prier le Seigneur dans sa chambre, et lorsque vous arrivez dans un hôtel, on vous mais dans une chambre d'hôtel pour passer la nuit, je pense que cette habitude de prier avant de dormir ou après avoir passé la nuit, vous voulez sortir, il faut prier, ça ne va pas manquer. Même si c'est l'hôtel, l'hôtel c'est la maison de tout le monde, mais vous êtes appelé à habiter pour un jour là-bas, vous oubliez l'habitude que vous aviez dans votre maison ou appartement parce que vous êtes dans un hôtel. Voilà ce que le pasteur veut nous montrer et c'est bien pour nous tous. Bien-aimés, en un mot, nous sommes devant une situation compliquée parce que nous avons quelqu'un qui quitte sa famille, peut-être pour un temps, et oui, c'était pour un temps, il va se marier. Mais cette personne-là, il fait partie de la famille que Dieu a choisie. Dieu a choisi Jacob. Et tous ses enfants ont été choisis à travers Jacob. Et cet enfant sort de la famille, va ailleurs, il est toujours présent aux yeux de Dieu. D'où il doit donc suivre ce que Dieu veut. Même si il ne suit pas correctement. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va l'écarter. Non, il est toujours à ses yeux. Il s'est écarté comment, lui, Judas, en prenant une femme là-bas. Mais Judas, il est le descendant de Jacob. Judas, il ne doit pas aller pour toujours. Il est toujours l'homme de Dieu, caché. Et Dieu va continuer à le suivre. Il a frappé ses enfants, Dieu a frappé ses enfants, mais il fera la grâce à Judas. et fera la grâce à Judas. Et le frère avait dit quelque chose de très important que nous verrons demain. Le frère pasteur Célestin, il a dit quelque chose sur la vie de cet homme Judas en parlant de la femme. Et le frère pasteur, l'autre pasteur, a parlé aussi de cette femme. Donc, Dieu, quand il nous choisit pour toujours, malgré tout ce que nous faisons. Nous pouvons avoir des problèmes, mais ses yeux sont toujours sur nous. Qu'il soit glorifié, notre Dieu, qui ne nous laisse pas. Amen. Alors, le passage de demain, c'est la suite de là où nous sommes arrêtés. Nous terminons le chapitre demain, le chapitre 38. Nous prenons à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Là, nous aurons cette histoire qui sera à un moment donné une histoire bizarre, mais c'est comme ça. Dieu est grand. Voilà, on s'arrête ici. Nous demandons au pasteur, pasteur Samuel, de prier le Seigneur et de le remercier parce que ses yeux sont toujours sur nous. Pas pour nous contrôler, non. Non, non, c'est à cause de son amour que ses yeux sont sur nous. Prions avec le frère pasteur.
Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour la que tu nous donnes aujourd'hui et nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir malgré nos faiblesses, malgré notre attitude de révolte, de rébellion et parfois de désobéissance. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, te dire merci. Parce qu'au travers de cette histoire que nous sommes en train de partager, nous voyons combien tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu dont les yeux sont sur nous et tes oreilles sont attentives à nos cris.
Amen.
Seigneur, nous voulons te recommander nos vies et nous voulons te recommander nos familles respectives. Te recommander ce que nous vivons, ce que nous traversons comme des situations, parce que toi, tu demeures notre papa et notre Dieu. Tu demeures le Dieu qui fait l'histoire avec nous, le Dieu qui ne nous abandonne pas et qui ne nous délaisse point. Seigneur, visite-nous, visite tous les frères, toutes les sœurs qui sont connectés pour partager ta parole. Visite ceux qui vont écouter ce que nous avons partagé pour qu'ils soient fiers, encouragés et qu'ils puissent aussi se tourner vers toi, continuer à compter sur toi, à espérer en toi. Bénis-nous ce soir pour nous qui sommes ici en Occident, en Europe, qui vont dormir, qui allons dormir bientôt. Et bénis nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté de l'océan, des États-Unis, du Canada. Seigneur, pour que tu sois avec eux. Et lorsqu'ils vont aussi se reposer, ne t'oublie pas. Merci de nous rappeler que tu es notre papa qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu es notre papa qui nous fait du bien et qui a de bons projets pour chacun de nous. Merci Seigneur de nous garder dans ton amour. Et merci aussi de continuer à permettre que chacun de nous contribue de telle manière que nous nous retrouvions en juillet, 31 juillet, jusqu'au août, ensemble, ici en Belgique, Seigneur. Nous gardons l'espérance que tu es le Dieu qui donne de l'argent, qui donne ce dont nous avons besoin. Nous te prions au nom de celui qui est mort et qui est vivant et qui vient bientôt. Jésus-Christ, le juste, notre Seigneur, Sauveur et Maître. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Bien-aimés, nous arrêtons là. Nous espérons que demain, Dieu nous donnera l'occasion de lire encore sa parole et continuer avec l'histoire que nous avons commencée.